Mandrin. Première partie, chapitre 16. Mandrin chez Voltaire. Dans une vaste bibliothèque à l'aspect délabré, un homme d'une soixantaine d'années, au profil anguleux, au menton accusé, était assis dans un large fauteuil à oreilles, auprès d'une cheminée dans laquelle pétillait un maigre feu de sarment. Frileusement enveloppé dans une vaste houppelande à ramages, il semblait de fort méchante humeur, et tout en geignant et en toussant, il ne cessait de diriger son regard perçant comme une vrille vers une porte sous laquelle passait un vent coulis qui soulevait par instants la couche de poussière répandue sur le parquet. « Décidément, grommelait M. de Voltaire, ces satanés valets vont me laisser mourir de froid. Et pas une sonnette pour rappeler ces coquins à l'ordre. Ils mériteraient que tout à l'heure je leur frictionnasse les côtes à coups de trique. » Mais la porte se décidait enfin à s'entrebâiller en grinçant douloureusement sur ses gonds. Un grand gaillard, efflanqué, s'avançait lentement, tout en portant avec précaution dans ses mains une tasse de tisane qu'il déposa si maladroitement sur une table qu'il en renversa la moitié. « Hors d'ici, maraud !» vociféra M. de Voltaire d'une voix criarde. « Ou j'appelle Satan pour qu'il t'emporte en son enfer !» Effaré, le pauvre diable s'empressa de déguerpir. Le maître du logis se leva, s'approcha de la table et se laissa tomber sur un siège, comme accablé par une grande fatigue. Puis, après avoir avalé quelques gorgées du breuvage, il s'empara d'une plume d'oie et se mit à écrire sur une feuille de vieux papier jauni « À Monseigneur le prince de Ligne. Mon cher prince, voici longtemps que je ne vous ai demandé de mes nouvelles. Je suis enfin arrivé à ce fameux château de Bon Repos dont j'ai seulement appris l'existence par le testament du marquis de Montferrat, ce généreux protecteur des écrivains, ce si parfait ami des philosophes. Or, je suis convaincu que, lorsque ce cher marquis me légua cette vieille demeure, il ne lui avait pas depuis longtemps rendu visite. Le château de Bon Repos est situé dans le duché de Savoie, à quelques portées de fusil de la frontière française. Il s'élève en un site pittoresque, calme, isolé, non dépourvu de grandeur et même de poésie. Sa façade ne manque point d'une certaine allure, et les jardins qui l'environnent ne sont point sans beauté. Quant à l'intérieur, ah, mon cher prince, quel cataclysme ! Grilles, barrières, fenêtres et portes ferment fort mal et sont loin de m'assurer ce qu'en jargon juridique on est convenu d'appeler le clos. Quant au couvert, la toiture a subi, elle aussi, l'injure des temps. La chute de nombreuses ardoises y a provoqué des trous par lesquels non seulement la pluie pénétrait avec abondance, mais dont profitent encore les oiseaux de nuit pour s'introduire chaque soir dans les greniers, où ils mènent un vacarme épouvantable. Je me fatigue fort à lutter contre l'humidité et la froidure et à me disputer avec mes serviteurs dont l'entendement au service laisse autant à désirer que le baragouin. Et je ne séjournerai guère dans une telle habitation, tout au plus bonne pour des hiboux ou des contrebandiers. À propos de contrebandiers, savez-vous que je suis presque voisin de ce fameux capitaine Mandrin dont les retentissants exploits défraient en ce moment la chronique? Vous ne vous imaginez pas l'admiration, le respect et l'affection que cet homme vraiment extraordinaire inspire aux bonnes gens de ces contrées. Son audace, son intelligence remarquable, sa bravoure chevaleresque me le rendent infiniment sympathique. Je ne vous cacherai pas, mon cher prince, que je ne serais nullement fâché de faire sa connaissance. » À peine Voltaire avait-il écrit ces derniers mots qu'une voix claironnante s'élevait tout près de lui. « Soyez satisfait, monsieur, Je suis Mandrin. Mandrin ? S'exclamait Voltaire en apercevant tout à coup devant lui, incliné en une attitude pleine de déférence, le héros dont il venait de tracer un portrait si flatteur. Et, tout en se retournant sur son siège, il scanda l'air ébahi. « Quelle est cette plaisanterie ?»«
Je parle très sérieusement, monsieur, » répliquait le révolté.
« Je suis Mandrin, capitaine général des contrebandiers de France. »
Et il ajouta.
« Daignez, monsieur, agréez mes humbles excuses si je me présente à vous d'une façon aussi incongrue. Mais je ne m'attendais pas à trouver du monde dans ce château. Depuis la mort de monsieur de Montferrat, je le croyais inhabité. »
Il l'était en effet, répliquait Voltaire.
Mais monsieur de Montferrat, me l'ayant légué en héritage, je suis venu, il y a seulement 2 jours, en prendre possession. Croyez que je n'y ferai pas un bien long séjour, car je m'y trouve fort mal. Mais, palsambleu, je ne m'attendais guère à votre visite, et je ne m'explique pas comment mes gens ne m'ont point prévenu de votre présence.
Vos gens ? S'écriait Mandrin avec un franc sourire.
« Mais, dès qu'ils m'ont vu paraître, ils se sont enfuis comme des alouettes à l'approche d'un émouché. Alors, je suis venu jusqu'ici. Vous étiez en train d'écrire, je n'ai pas voulu vous déranger. Je me suis approché de vous, j'ai même risqué un coup d'œil indiscret par-dessus votre épaule, et constatant que vous désiriez vivement faire ma connaissance, je n'ai pu résister, monsieur le châtelain, à la tentation de vous procurer ce plaisir. Vous avez eu raison, répliquait Voltaire, que cette aventure semblait fort divertir. Et, tout en indiquant un siège, il ajouta « Soyez le bienvenu. Mais comment, diable, avez-vous eu l'idée de pénétrer dans ce château? Aviez-vous l'intention d'y établir votre quartier général ?»«
Oh, nullement, monsieur. »
« Alors, c'est toute une histoire. » Puis-je vous la conter ?
Je vous en prie.
Eh bien, voici. Hier, monsieur le châtelain, j'ai joué un bon tour au fermier général bourré d'Irigny. Vous lui avez enlevé sa caisse ?
Non,
sa fiancée.
Ceci devient fort piquant.
Figurez-vous que ce drôle avait osé jeter son dévolu sur une exquise jeune fille que j'aime et dont j'ai l'inappréciable bonheur d'être aimé.
« Cela ne m'étonne guère, car vous êtes un fort beau cavalier. »
Ce bourré, après avoir réussi à terroriser cette charmante enfant, l'avait emmenée en son château des Aigles, près de Grenoble, afin de l'épouser en grande cérémonie. Alors, j'imaginais de me substituer au prêtre chargé d'unir les futurs époux. J'y réussis, et le soir même, j'enlevai Nicole et je l'emmenai aux ruines de Saint-Barnabé, où un prêtre, un vrai celui-là, dont je possède les bonnes grâces, procédait à notre bénédiction nuptiale.
« Mais c'est tout simplement admirable !» déclarait Voltaire, de plus en plus amusé.
« Permettez, monsieur le châtelain, » reprenait Mandrin, « je n'ai pas terminé. À peine le bon curé de Beaujeu venait-il de nous bénir, que tout à coup, un de nos guetteurs me prévenait que la maréchaussée était au bas des ruines. Jugez de l'émoi de ma jeune femme et de cet excellent abbé, terrifié à la pensée des représailles que n'allait pas manquer d'exercer contre lui le vindicatif fermier général. Mais, d'un mot, je rassurais tout le monde. Vous vous doutez bien, monsieur le châtelain, que je n'avais pas été sans prévoir que je serais poursuivi. Aussi m'étais-je mis en garde contre toute agression et contre toute surprise. J'avais découvert, près du maître-autel de la chapelle, l'entrée d'un souterrain dissimulé sous une dalle et dont nul ne soupçonnait l'existence. Je l'explorai aussitôt. Taillé dans le roc, il était en parfait état de conservation. Grande fut ma joie quand je constatai qu'il aboutissait dans les caves du château de Bon Repos, c'est-à-dire en plein territoire savoyard. Quelle sécurité pour moi ! Voilà pourquoi, lorsque mon guetteur m'annonça que les gendarmes cernaient les ruines de Saint-Barnabé, je n'éprouvais aucune inquiétude. Le temps de faire basculer la dalle, d'engouffrer dans l'escalier ma femme, le curé, mes amis et moi-même,
et nous étions à l'abri de nos ennemis, qui doivent en ce moment faire, là-bas, très piteuse figure. Voilà comment, monsieur le châtelain, je suis venu chez vous. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à prendre congé de vous, après vous avoir remercié du bienveillant accueil que vous avez daigné m'accorder. « Restez, capitaine, » déclarait Voltaire. « Si maigre soit la chair que je puis vous offrir, j'entends que vous soupiez ce soir avec moi. »
« Ce serait avec grand plaisir, » ripostait Mandrin. « Mais je ne suis pas tout seul. »
« C'est juste, il y a votre femme. »
« Je l'invite. » « Il y a aussi mes amis. »
« Je les invite également. »
« Et puis, le curé de Beaujeu. »
« J'entends qu'il soit des nôtres. »
« Est-ce possible ?»«
Allez vite les chercher et dites-leur que M. de Voltaire se tiendra pour enchanté d'être ce soir leur hôte. »
« Monsieur de Voltaire ? » s'écriait Mandrin au comble de la stupeur.
Une grande flamme d'enthousiasme illumina le visage du révolté.
« Voltaire ? » s'écria-t-il. « Voltaire ? Excusez mon trouble, » fit-il. « Je crois que c'est la première fois que je me trouve en face d'un homme capable de me faire courber le front.
« Voltaire ! Vous êtes Voltaire ! Et vous m'aimez ! Et vous me comprenez, et vous m'admirez, moi, le montagnard, moi, le rustre, moi, le sauvage.
Mandrin, déclarait Voltaire,
vous me connaissez donc?
Oui, scandait le capitaine.
Contrairement à beaucoup de jeunes gens, de mon espèce et de mon âge, j'ai appris à lire. Un jour, vos œuvres me sont tombées sous les yeux. J'en ai tout de suite compris la profonde philosophie et la haute portée sociale. Je me suis pénétré de leur esprit de justice. Je suis donc votre humble élève, mon maître.
Si Voltaire n'avait pas vécu, Mandrin n'aurait pas existé.
Si Voltaire n'avait pas écrit, Mandrin n'aurait pas combattu. Vous avez mis dans ma main le flambeau de lumière, la torche vengeresse. Merci.
Mandrin, sans s'en douter, venait de procurer à Voltaire l'une des plus grandes joies de sa vie.
« Allons !» s'écria ce dernier. « Je vois que je n'ai pas lancé en vain la bonne parole. J'avais l'espoir de penser que je travaillais pour la postérité. Et voilà que, de mon vivant, j'ai l'orgueil de voir se lever le blé que j'ai semé. »
Et Voltaire eut ce cri.
« Je ne suis donc pas un utopiste !»
Il s'empressa d'ajouter
« Allez vite chercher votre femme, vos amis et le curé, car je m'en voudrais qu'ils s'enrhumassent dans mes caves. »
Mandrin se précipita au dehors. Alors, Voltaire, rajeuni de 10 ans par ce succès, courut jusqu'à la porte, appelant de tous ses poumons
« Hola, Jasmin, La Fleur, Picard, Babé !»
Les uns après les autres, les gens de M. de Voltaire, qui s'impatientaient fort, finirent par répondre, non sans hésitation, à l'appel de leur maître.
« Oh, ça !» s'écriait l'auteur de l'ingénu. « Que signifie cette couardise ?»«
Monsieur, » bégaya Jasmin, « c'est Mandrin. »«
Sachez que Mandrin est de mes amis !» martela énergiquement le châtelain de Bon Repos. « Apprenez aussi, Marot, que Mandrin est un grand homme que j'admire. Aussi, j'entends que vous le respectiez autant que moi-même. Préparez donc un grand festin. Mettez à sac ma basse-cour et à sec mes caves. Et si cela ne suffit pas, achetez aux alentours les provisions nécessaires. Car ce soir, je traite le capitaine Mandrin et ses amis. Allez !»
Les domestiques, convaincus que leur maître était devenu fou, demeurait figé sur place, bouche bée et les yeux ronds.
« Ah ça, bel itre ! » s'écria l'illustre écrivain. « Pour vous faire entendre le français, faut-il que je brise ma canne sur vos piètres carcasses ?»
Cette fois, tous comprirent et s'empressèrent d'aller exécuter les ordres de leur irascible seigneur. Voltaire s'en fut s'asseoir dans son fauteuil. Puis, tout en se frottant les mains,
« Voilà, fit-il, une intervention inattendue qui va me forcer à prolonger mon séjour dans cette masure. Quelques instants après, la bande à mandrins pénétrait dans la bibliothèque en grande cérémonie. Voltaire, après avoir savouré son triomphe, se leva et s'en fut vers Nicole. « Madame, fit-il, je m'excuse auprès de vous de la médiocre hospitalité que je vais vous offrir. Le château de Bonrepos n'était point préparé à servir de temple à la gloire et à l'amour, mais votre grâce radieuse saura l'illuminer d'une telle splendeur qu'elle le transformera en un palais dont j'entends que vous soyez la reine. » Alors Mandrin, se tournant vers ses compagnons, leur lança « Mes amis, crions tous « Vive Monsieur de Voltaire !» Et de 50 poitrines jaillit le cri réclamé, qui se répercuta en un écho de tonnerre sous les voûtes de la bibliothèque. Voltaire eut la sensation qu'il n'avait encore jamais goûté un tel triomphe. Tout à coup, il s'écriait « Mais je ne vois pas le curé de Beaujeu !»« Ce bon pasteur, déclarait Mandrin, a préféré rejoindre immédiatement ses ouailles. Sans doute a-t-il craint de compromettre sa dignité sacerdotale en s'asseyant à la table du vieux mécréant que l'on me prétend être. Nullement, affirmait Nicole. Monsieur le curé m'a chargé de vous transmettre toutes ses excuses. Il m'a même demandé de vous dire qu'il allait prier le bon Dieu pour vous. Quoi qu'il en soit, déclarait fièrement Voltaire, je ne saurais en vouloir à ce saint homme, puisqu'il a eu le bon goût de consacrer votre amour, et que grâce à lui, vous allez pouvoir vous aimer sans péché. Et maintenant, Madame Mandrin, voulez-vous me permettre de vous faire les honneurs de mon château ? Très volontiers, monsieur, accepta Nicole, ravie elle aussi d'être accueillie avec autant de bienveillance par un homme dont la gloire rayonnait par tout le monde. Vous permettez, mon cher capitaine, que je vous enlève un instant votre exquise compagne. Je vous en prie. Voltaire tendit la main à Nicole, qui, gracieusement, y appuya la sienne. Comme il s'éloignait vers le vestibule, Mandrin fit signe à Carnaval et à Mi-Carême de s'approcher. Après leur avoir murmuré à l'oreille quelques paroles confidentielles qui parurent d'ailleurs les enchanter tous les deux, il s'installa devant la table et griffonna quelques mots sur un bout de papier qu'il remit à Carnaval, tout en disant « Vous m'avez bien compris, n'est-ce pas ?» En douceur, mais avec fermeté toutefois, si cela est nécessaire. C'est entendu, capitaine. Le trésorier et le secrétaire de Mandrin, avec la mine de gens qui se promettent de bien s'amuser, gagnèrent aussitôt le dehors. Mandrin se préparait à rejoindre Nicole et Voltaire lorsqu'il se heurta sur le seuil de la porte au major et au brutal qui étaient restés tous deux de faction dans le vestibule. Toujours rien de nouveau au sujet de Thiénot ? Interrogea-t-il. « Non, capitaine. Retournez vite aux ruines de Saint-Barnabé, où j'ai donné rendez-vous au pays, et dès qu'il sera de retour, amenez-le ici en toute hâte. »« Bien, capitaine. » Tandis que le major et le brutal regagnaient les caves, Mandrin, dont le visage s'était tout à coup empreint d'une expression de profonde et sincère angoisse, se prit à murmurer. « Ah, le pauvre petit, pourvu qu'il ne lui soit pas arrivé malheur. » Déjà, Mandrin avait oublié que Thiénot était une femme.